Bonjour Benjamin Armand.
Bonjour Patrice.
Vous êtes élu, on le rappelle, au sein de la commune de Saint-Marcellin pour ce qui concerne tout le secteur culture. Et c'est justement un peu ce qui donne des signes de motivation, de préoccupation actuellement sur cette maison emblématique, maison d'artistes, à Saint-Marcellin, dans le centre-ville quasiment. Une maison d'artistes qui fait résonner aussi toute une époque avec des personnalités qui ont pu y résider. Mais auparavant, avant d'aborder tout cet historique, peut-être vous, votre découverte justement de cette maison que l'on nomme le bateau ivre, hein, c'est bien cela ?
C'est bien cela, donc d'après le nom d'un poème de Rimbaud, donc de 1870. Cette maison, en fait, je l'ai découvert un peu par hasard, par des multiples biais. Il y a eu un premier biais lorsque j'avais fait un petit stage au Diapason. Un chanteur de jazz était venu lors de la saison et avait demandé à la programmatrice de l'époque, donc Marie-Ange Perly, de l'amener à la maison dite du bateau ivre. Et en fait, personne ne savait ce que c'était. Donc il a donné le nom de la rue, on l'a amené et ça a été déjà un premier contact avec la maison pour ma part. Un peu, on va dire, rapide. Et la vraie première rencontre, ça a été avant d'être donc professeur de français, j'ai fait des études de comparé entre la littérature et le cinéma. Et j'ai travaillé pendant mon master de recherche sur le cinéma de la réalisatrice Agnès Varda. Et lorsque j'ai travaillé sur ses archives, j'ai vu une photo prise par Varda de Pierre Zekili avec son fils Martin à la maison dite du bateau ivre. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, c'est étonnant, une réalisatrice comme Agnès Varda, une des plus grandes réalisatrices, peut-être la plus grande réalisatrice française, est venue à Saint-Marcin dans les années 50 pour prendre en photo un collectif d'artistes. Et c'est à partir de là que mes recherches ont commencé sur l'historique de la maison.
Alors après, bien, le fil en aiguille, hein, c'est un petit peu cette bobine du temps qui s'est déroulée et puis retrouver un peu tout ce contexte historique et de manière peut-être un petit peu insoupçonnée, ces artistes qui avaient une envergure d'un rayonnement beaucoup plus large que Saint-Marcellin.
Ensuite, donc, l'histoire a été tout autre puisque donc, j'ai été élu avec monsieur le maire Raphaël Mosselin. On a été en campagne et il se trouve que la maison a été en vente 8 mois après l'élection. Et s'est posé la question de préempter. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, on a déroulé tout l'historique de la maison, dite du bateau ivre. Donc, quelle était cette histoire ? C'est une maison qui a été construite entre 1952 et 1956. Il s'agit d'un collectif, le collectif Zekeli, BZK, qui a sévi donc dans la période de l'après-guerre, en fait, à partir de 1947. Ce collectif, au départ, est implanté à Manosque et il rencontre, à l'époque, le dentiste Gelas avec sa femme, le couple Gelas. Toute cette histoire est racontée sur le blog de Jean Briselet Thermopyles. Et à l'occasion donc, d'une chorale, ils se rencontrent et les Gelas, qui à l'époque voulaient plutôt un chalet en bois, vont décider de changer complètement de projet pour leur maison et de faire une maison œuvre d'art, une maison d'artistes avec le collectif. C'est suite à cela que Pierre Zekeli propose un dessin qui depuis est resté célèbre, un dessin qui représente une cellule biologique et qui est gravé à l'entrée de la maison dans le marbre. Et cette cellule biologique, en fait, c'est l'idée de faire une maison à partir d'un dessin le plus simple possible. Donc extrêmement influencé par la période cubiste des années 30, dont le principal représentant a pu être Juan Miró, le célèbre peintre espagnol. Suite à cela, il va donc se passer de 52 à 56, la période à la fois de construction, non seulement de la maison, mais aussi de toutes les pièces qui vont orner et être dans cette maison. Donc ça peut aller de la draperie à la céramique. Énormément de pièces qui vont être produites par le collectif, donc Pierre Zekeli, Vera Zekeli et André Borderie, les trois artistes. Suite à cela, effectivement, vous m'aviez tendu la perche, tous ces artistes vont avoir une carrière entre guillemets internationale. Le collectif va se dissoudre juste après la construction de la maison et aussi leur réalisation qu'ils vont faire pour la piscine municipale de Saint-Marcellin, donc en 57. Le collectif va se dissoudre, Pierre Zekeli va faire sa carrière de son côté. Donc il va faire des réalisations plutôt de maisons insolites, sans jamais véritablement se renouveler, mais il va être quand même protégé par le président François Mitterrand en 81 et va réaliser des sculptures qui seront exposées notamment dans les jardins de l'Élysée durant le second mandat de François Mitterrand. André Borderie va continuer sa carrière de peintre en France et à l'étranger. Mais aujourd'hui, grâce aux travaux de Daniel Léger, qui est un historien de l'art, on peut dire également que c'est Vera Zekely qui aura eu peut-être la période artistique la plus intéressante à la fois pour elle, mais pour l'histoire de l'art, puisqu'elle a fait des céramiques et des tapisseries qui n'ont pas été produits comme des objets utilitaires pour la vie du quotidien, mais bien comme des objets d'art. Ce qui est plutôt avant-gardiste pour cette discipline de l'histoire de l'art dans les années 60-70. Et cette maison est très importante à ce titre, à la fois pour le collectif, puisqu'il s'agit de la seule grande réalisation majeure du collectif, mais aussi pour Vera Zekely, puisqu'elle dira à la fin de sa vie qu'il s'agit de peut-être sa pièce artistique la plus importante. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, Vera Zekely, c'est de multiples pièces qui ont été exposées à Beaubourg dans les années 80, dans les années 90. C'est des céramiques qui sont exposées un peu partout dans le monde, notamment au musée du Guggenheim à New York. Voilà, toutes ces choses qui font que cette maison est unique pour le patrimoine de Saint-Marcellin.
Une maison si avant-gardiste, finalement, architecturalement.
Voilà, je peux revenir sur effectivement les courbes de la maison qui épousent en fait le dessin dont je parlais de Pierre Zekely. Ces courbes, en fait, la maison a été coulée d'une traite, comme si en fait un peintre faisait, mais même comme le pensait Picasso à la fin de sa vie, c'est-à-dire faire en un trait un dessin. Et c'est comme ça qu'a été pensée la maison, donc cette courbure. Ça, c'est l'architecture, on va dire, d'ensemble. Ensuite, la maison, elle a été pensée par rapport à l'extérieur. Donc il y a toute une réflexion qui a été faite pour que la nature entre dans la maison et à l'inverse, que la maison sorte dans le jardin. Puisqu'il faut rappeler que ce soit la maison ou le jardin, ces deux éléments sont classés au patrimoine du XXe siècle. Donc comment est-ce que c'est possible ? Par exemple, les roches qui parcourent l'entrée de la maison viennent sortir directement dans le jardin et font comme ça une continuité entre l'entrée, le couloir, le vestibule et le jardin. De la même manière, il y a dans les plafonds des formes géométriques un peu pures qui font entrer la lumière naturelle. Donc c'est ce qui a permis par exemple aux visiteurs lors du vernissage de dire qu'on a l'impression d'être à l'extérieur dans ce vestibule alors qu'on est à l'intérieur. Et oui, car c'est de la lumière naturelle qui entre et ça a été pensé aussi comme, pas totalement un jardin d'hiver, mais pour que les plantes dans ce vestibule puissent respirer et profiter de cette lumière naturelle. De la même manière, de l'autre côté de la maison, les grandes baies vitrées, plutôt avant-gardistes pour l'époque, ouvertes vers l'extérieur, peuvent complètement se retirer et laisser entrer donc la nature à l'intérieur. Les galets de la cheminée, qui ont été récupérés dans une rivière de la vallée, donc pas notre vallée, mais du côté de la côte Saint-André, qui constitue la cheminée. Et aussi, il faudra que les spectateurs fassent attention. Dans le salon, il y a comme des petits hublots donc de bateaux qui donnent sur l'extérieur. Et il faut essayer là, pour le coup, faire un effort d'imagination. À l'époque, la végétation n'était pas aussi galopante. Et donc, chaque hublot donné sur un point du Vercors précis qu'affectionnait le collectif. Donc, ce qui, puisqu'en fait, c'est vraiment là pour le coup, la maison a été tournée vers le Royan, mais vers le cirque de Saint-Jean-Royan, mais qui du coup, aujourd'hui, la végétation a pris le dessus, on ne voit plus rien. Donc, il y a toute une réflexion comme ça, comment dialoguer avec la nature, comment la faire entrer dans la maison et comment la maison elle-même peut dialoguer avec cette nature. Pour compléter, toujours sur l'aspect architectural, quelques éléments importants. Le premier, c'est le chauffage au sol qui, pour le coup, est complètement moderne pour l'époque et tellement moderne qu'il n'a jamais véritablement fonctionné, d'après les dires du couple Gelas, puisque des années 60, ils avaient des gros soucis avec ce chauffage au sol. Un plafond plat qui aussi pose beaucoup de problèmes à la municipalité à restaurer, puisqu'en fait, ça a été un des premiers toits plats de France. Et il n'a pas été totalement bien pensé en termes d'étanchéité et d'écoulement de l'eau. Mais ces deux éléments-là font que architecturalement la maison est intéressante. Également les meubles, les visiteurs pourront apprécier le rangement qui ont été extrêmement bien pensés. Alors on n'est pas sur des conceptions qu'on pourrait retrouver chez Le Corbusier en termes d'efficacité, de simplicité par rapport à la surface, mais il y a quand même une réflexion d'ensemble sur un mobilier efficace et un mobilier esthétique. Je pense au rangement qui là est encore dans le salon, donc ces étagères extrêmement simplistes avec ces plaques de métal, donc aujourd'hui il n'en reste que deux, mais qui là aussi va influencer tout un mobilier des années 80-90, parce que là j'en profite pour rappeler que donc le fils des époux Zekely, Martin Zekely, est considéré aujourd'hui comme un des plus grands designers internationaux. Donc il a fait des pièces aussi simples que la bouteille Perrier, les pylônes électriques, les fauteuils des cinémas MK2 à Paris, mais des choses beaucoup plus prestigieuses comme le mobilier du Louvre qui a été totalement repensé par lui il y a 2 ans. Et les musées des arts décoratifs qui l'ont mis à l'honneur puisque le mobilier Zekely a complètement révolutionné le design du mobilier des années 80. Et justement, les pièces qui étaient exposées au musée des arts décoratifs à l'occasion d'une grande exposition sur les années 80, c'était cette année, il y a 3-4 mois. Ce mobilier-là a été inspiré, c'est Martin Zekely qui le dit, par le mobilier qui est dans la maison, dans le salon du bateau Yves. Vous voyez, il y a une continuité, en fait, chaque pièce, chaque élément de la maison, entre à la fois sa conception et aussi la postérité.
Et l'art de vivre aussi la maison, entre les pièces de vie, les pièces plus intimes où on se retire.
Voilà, les pièces de vivre aussi ont été pensées, donc là je reviens au dessin originel, la cellule biologique. La cellule biologique par Pierre Zekely, elle a été pensée comme un espace nuit et un espace jour. L'espace nuit, donc lorsque vous entrez dans la maison, dans le vestibule, il se situe sur votre gauche. Il est constitué par 2 chambres avec la salle d'eau. Et cette pièce nuit, donc si on y entre, on a plutôt des petites fenêtres comme dans un bateau avec des hublots, des peintures blanches, mais finalement plutôt renfermées. Et c'est plutôt logique puisqu'on est dans les espaces de nuit. Et cet espace nuit, il est relié par un bureau qui, lui, amène plutôt dans les espaces de jour. Donc la salle à manger, la cuisine et les 2 chambres d'amis. Donc c'est aussi ce qui a toujours été étonnant et ce que remarquent les visiteurs, c'est qu'en fait, quand on passe depuis la route, on a l'impression que cette maison, elle est toute petite et elle est cachée par, en plus, cet écrin du jardin. Et en fait, quand on y pénètre, on se rend compte qu'il y a quand même 6 pièces, une grande salle à manger et la cuisine qui est quand même plutôt grande pour l'époque. Donc il y a aussi une réflexion sur comment faire cohabiter les espaces, les surfaces avec l'espace naturel, mais aussi à l'intérieur.
Alors une maison dans son jus, hein, comme on dit, et qui est habitée provisoirement par des œuvres d'art, finalement ça confère quelque chose d'assez authentique. On retrouvait peut-être pas tout à fait les mêmes objets, mais un peu l'ambiance d'autrefois, avec donc les plasticiens et sculpteurs qui exposent. Actuellement, c'était aussi une volonté de lui redonner provisoirement, temporairement, une vie à cette maison bateau-ivre.
L'idée, c'était vraiment pour ce premier lancement, ce premier essai, parce qu'en fait, il s'agit de ça, c'est d'ouvrir la maison avec une grande exposition d'ampleur et voir un petit peu si, puisque cette maison, maintenant, c'est un bien public, donc elle appartient au Saint-Marcellinois, et si cette maison ouverte, exposée de cette façon, elle plaît et cet usage plaît aux habitants. Donc l'idée, c'était à la fois de faire une exposition qui ait du sens, et c'est ce qu'ont voulu faire les 2 artistes, Fernand Gréco et Renaud Lefebvre, puisqu'ils l'ont clairement habité et pensé pour que leurs œuvres résonnent avec la maison, et à la fois lui redonner sa fonction première, puisque comme je l'ai dit, dans les années 50, ça a été un bouillonnement intellectuel et artistique qui a habité cette maison. Et c'est comme ça qu'elle a été pensée à la fois par le Coupe Gelas et par le collectif. Donc pour revenir un petit peu sur le travail de ces 2 artistes, effectivement, Fernand Gréco et Renaud Lefebvre, qui sont 2 artistes romanais, Gréco qui avait déjà exposé à Saint-Marcellin l'an passé dans le cadre de la Biennale des Arts Singuliers, et qui a découvert cette maison du bateau ivre et qui s'est tout de suite projeté. Et ce qu'on a beaucoup apprécié, et ce que je l'espère apprécieront les spectateurs, c'est un dialogue en fait sans cesse entre leurs pièces à eux et les pièces du collectif. Pour donner un exemple, la pièce qui a été faite par Gréco et qui est dans le jardin, c'est une pièce qu'il a faite, qui est sortie de ses usines, qu'il a mis un peu plus de 4 mois à produire et qui est venue dans le jardin et que personnellement j'affectionne beaucoup puisqu'on a l'impression qu'elle a été faite pour le lieu. Et pour prendre l'exemple de cette œuvre, qui est très influencée, comme souvent le travail de Gréco, Vera Zekeli, la fresque, donc qui est la pièce maîtresse de la maison, qui est dans la salle à manger, on a là une forme de dialogue entre un travail d'un sculpteur en 2023 avec le travail d'un collectif dans les années 50. Pareil, les lignes de force de la céramique répondent au jaune ocre de la ligne de force de la sculpture tête qu'a fait Gréco, qui est dans la salle à manger. Et cette tête, Fernand Gréco l'a positionnée devant la fresque avec un effet de transparence qui ne gâche pas du tout notre appréciation de la fresque, mais qui au contraire l'enrichit. Et d'ailleurs, ce que voulait faire au départ Fernand Gréco, ce qu'il n'a pas fait, mais ce que j'ai vu qui était aussi intéressant, il voulait faire un jeu de lumière avec une projection de la tête sur la fresque, comme si la tête en fait animait la fresque du collectif et de Vera Zekeli. Donc c'est un avant-goût, mais c'est pour vous donner un petit peu cette idée d'une maison habitée par des artistes qui ont vraiment réfléchi à essayer de comprendre comment est-ce que cette maison a été pensée, comment est-ce que cette maison a été décorée, comment est-ce que leurs propres œuvres peuvent dialoguer. Je peux encore parler de cette tête majestueuse qui accueille les spectateurs lorsqu'ils entreront dans la maison, qui est noire et qui a été placée sur un fond blanc. Donc on a l'impression qu'il y a un effet de transparence comme ça et que les spectateurs pourront d'ailleurs apprécier à plusieurs heures de la journée. Le matin, les ombres projetées par la tête sur la façade de la maison ne seront pas du tout les mêmes qu'en fin de journée lorsque nous ouvrirons la maison lors des visites. Je pense aux galets de Renaud Lefebvre qui sont dans ces sculptures dans la chambre d'amis, la deuxième chambre d'amis de la maison, qui elle-même fait écho aux galets de la cheminée. Je pense également à ce noir de Renaud Lefebvre qui est travaillé, il le dit lui-même, hein, influencé très fort par Pierre Soulages qui nous a quittés tout récemment. Et ce noir Soulages qui est dans la salle à manger, qui fait écho aussi aux deux autres tableaux, il fait également écho au noir très profond des boiseries et du métal des fenêtres. Donc on est vraiment ravis parce qu'en fait toutes ces œuvres dialoguent, habitent le lieu et on est content parce qu'effectivement la maison est dans son jus. Mais je peux vous dire que la maison nue et la maison habitée comme elle l'a été par Gréco et Lefebvre, c'est autre chose et on est content que les spectateurs la voient comme ça.
Eh bien, pour celles et ceux qui souhaiteraient la découvrir, hein, il y a encore quelques créneaux possibles hein, jusqu'en cette fin de mois de juin.
Voilà, donc je rappelle que la maison et en accès libre, gratuitement, sans réservation. Il s'agit juste de venir les trois week-ends de juin, donc à partir de ce week-end jusqu'à la fin du mois de juin, de 9h à midi et de 14h à 18h. Et vous trouverez donc soit des artistes, soit des élus pour vous accueillir et vous guider à l'intérieur de la maison.
Merci beaucoup, Benjamin Armand.
Merci beaucoup à vous.
Bouillonnement artistique puisqu'on finit le festival Barbarin, hein, ça s'est terminé samedi. Et là, Fernand Gréco m'a contacté par le biais de Monique Vincent pour me demander de visiter déjà la maison et de voir s'il pouvait faire une exposition avec son ami sculpteur. Son idée, en fait, en plus, la maison dans l'état qu'elle est, comme il vous a expliqué, c'est vraiment ce qu'il recherche, une maison dans l'état, qui n'a pas été du tout aménagée, qui est dans son jus, entre guillemets, et de faire ressortir, d'essayer de faire voir ses œuvres. Et là, on s'aperçoit que c'est une vraie réussite, puisque ça se marie bien. Et de faire visiter cette maison, j'ai essayé, pour les journées du patrimoine, on l'avait fait visiter. Mais c'est vrai que la faire visiter vide, c'est difficile à se l'appréhender. Et là, ça change tout, en fait. C'est magique, ça change tout. Et ces œuvres qui se marient très, très bien, ensemble et avec la maison, ça prend de l'épaisseur, du volume, et on comprend bien qu'il fallait vraiment l'acheter, en fait, cette maison, se rendre propriétaire pour la rendre à nos citoyens. Vera Zekeli, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une artiste qui prend toute sa place maintenant, qui a vraiment sa place au niveau international, hein, parce qu'elle est restée longtemps dans l'ombre de ces deux hommes, enfin entre son mari et le peintre Borderie. Mais donc maintenant, c'est elle, en tant que telle, artiste en tant que telle, elle est reconnue.
Et réhabilitée aussi quelque part.
Et reconnue. Et en fait, il y a des adeptes hein, de ces poteries qui sont disséminées dans le monde et qui sont rares quand même, très rares. Et il y avait vraiment des adeptes qui parcourent le monde pour retrouver ces poteries. Ouais.
Ouais. Et qui a toujours été un peu dans l'ombre hein, de Pierre Zekeli.
Bah, oui, c'était l'époque. Hein, l'époque, maintenant, on voit bien hein, les femmes artistes avec le Festival de Cannes qui vient de se terminer, où il y a quand même quelques réalisatrices hein, qui arrivent à percer. Mais on a vu l'année dernière un Festival de Cannes sans quasiment de réalisatrices femmes. Donc voilà, et dans les années 50, c'était Vera Zekeli, c'était en fait en plus la signature. Au départ, c'était SZ, donc Zekeli, les deux premières lettres de Zekeli, et B, hein, le trio. Donc elle n'existait carrément pas, c'est pas. Et après, quand ils se sont séparés, eh ben, là, ils signaient SZ, enfin les trois premières lettres de Zekeli. Vous voyez qu'elle était vraiment, vraiment donc, dans l'ombre, elle n'existait pas par elle-même. Et on a rencontré son fils avec Raphaël Mostyn, le maire de Saint-Marcin. On a été le voir à Paris, il nous a reçus vraiment très gentiment. Il est donc très content qu'on ait acheté la maison, cette maison.
Le célèbre designer, c'est ça ?
Voilà, célèbre designer. Et lui, il est très, très attaché à remettre sa mère à sa juste place d'artiste. Ouais, mais vraiment, c'est son objectif. Hein. Et là, il est très content et il nous pousse plutôt dans ce sens-là.
On a l'impression que les Saint-Marcelinoises et Saint-Marcelinois découvrent un peu cet emblème artistique. C'était quelque part toujours un petit peu insoupçonné, cette bâtisse.
Il y a une partie de la population qui la connaissait, hein, puisque Benjamin Armand la connaissait bien, Mais c'est vrai que les Jeulas ont toujours vécu dans cette maison, en fait. Elle n'a jamais changé de propriétaire. Donc, ils vivaient en intimité chez eux, et donc, à part les gens qui recevaient. Donc, on savait que cette maison existait. Et quand c'est eux qui ont fait la demande de classer un monument, que cette maison soit classée monument historique, la maison et le jardin, d'ailleurs. Donc, à partir de là, effectivement, il y a eu un peu plus de publicité sur cette maison.
Merci beaucoup, Madame Nava, et à très prochainement donc, dans ce bateau ivre au 22 Avenue La Solée. Hein, c'est ça, c'est en bord de rue, c'est facile à trouver.
Oui, tout à fait. Merci à vous.
Bonsoir, Monsieur Mostyn.
Bonsoir.
Une soirée quelque peu particulière hein, dans la ville de Saint-Marcelin, puisque une petite pépite, emblème culturel, donne un peu plus de sa présence sur Saint-Marcelin. Et c'est aussi pour vous un certain aboutissement en termes, déjà en premier lieu peut-être administratif, puisque depuis quelques années, ça a été donc la volonté de la mairie de Saint-Marcelin d'acquérir cette maison. Ça n'a pas été facile.
Ça n'a pas été facile, mais bon, on connaissait bien la famille qui occupait cette maison, hein, la famille Jeulas. On ne voulait pas la laisser partir à un promoteur qui la démonte et qui la démantèle. Donc on a voulu récupérer cette pépite qui est vraiment extraordinaire. Hein. C'est un bien inestimable. C'est comme si on avait retrouvé une maison Le Corbusier à Saint-Marcelin. Quoi. Et l'avantage, c'est qu'elle est restée dans son jus. Elle est depuis 1956 en l'état. Donc c'est quelque chose de magnifique. Sachant il y a quand même des travaux d'isolation, d'étanchéité surtout. Et là, comme le temps nous le démontre, il pleut et c'est vrai que je m'aperçois qu'il y a quand même un toit qui n'est pas en bon état. Mais ça, on va y remédier. Il y a des solutions à tous les problèmes de bâtiment. Alors on va la rénover, on va la garder dans son jus parce que c'est vraiment quelque chose, c'est un monument qui est classé. On a rencontré l'année dernière, ou il y a deux ans, Martin Zekeli, qui est le fils héritier de Vera et de Pierre Zekeli à Paris, qui est un très grand designer. C'est lui qui a dessiné, entre autres, le verre Perrier, le verre qui est l'emblème de Perrier, hein, qui est une icône. Et c'est un designer qui fait du mobilier, et notamment le mobilier dans les musées. Le musée du Louvre, par exemple, ou le musée d'Orsay, c'est lui qui a fait le mobilier. Donc on est en relation avec Martin Zekeli, et on va se revoir, mais on aimerait retrouver le mobilier d'antan pour cette maison. Parce que d'après les photos, on peut refaire ce mobilier-là. Voilà. Donc on a envie de faire cet écrin quelque chose de magnifique, quoi. On veut le mettre en valeur. On va avoir une thésarde qui va faire en septembre un dossier justement sur la vie de Pierre Zekeli et Vera Zekeli, Borderie, de façon à mettre de l'épaisseur dans ce bien-là, quoi.
C'est déjà reposer toute l'histoire avant tout,
hein. Oui, tout à fait.
Et puis à partir de là, de ces fondations, vous allez...
C'est écrire une histoire, écrire une belle histoire. Voilà, on va s'y atteler et je suis content que la ville de Saint-Marcellin ait fait cette acquisition. Et sachant qu'il y a aussi la piscine à Saint-Marcellin, où il y a une céramique également qui est dans les bâtiments, et le plongeoir qui a été dessiné par Zekeli, donc qui est classé aussi. Et il y avait avant un coq en cuivre, hein, qui a disparu, qui a été volé il y a quelques années de cela. On va essayer par rapport aux photos que l'on a, si on ne peut pas trouver un compagnon du devoir pour nous refaire à l'identique. D'accord. Mais on fera attention à le mettre sous surveillance cette fois-ci.
Est-ce que vous aviez un peu des photos d'époque au moment où tout était meublé?
Oui, tout à fait. Oui. Dans les années 70-72, on a ce mobilier-là. D'ailleurs, on peut le retrouver sur Internet. On peut le retrouver, si vous tapez Vera Zekeli, Pierre Zekeli, vous verrez le mobilier, borderie, tout ça. Oui. Et il y a des photos prises justement avec la céramique qu'il y a à l'intérieur de cette maison, le bateau ivre.
Et le fait qu'elle soit classée, ça donne des contraintes ou pour vous, pour envisager la suite?
De contraintes, peut-être pas, mais ça donne un cahier des charges qui doit être respecté. Oui. Donc ça permet de ne pas faire n'importe quoi, parce qu'il y aura les bâtiments de France, il y aura la DREAL qui va nous suivre, il y a tout un cheminement à faire et à construire. Après, nous, aujourd'hui, on va chercher des mécénats, on va chercher des finances. Autant à la région, j'ai demandé, j'ai fait un dossier pour la région, au département, mais là, ça serait plutôt chercher un mécène, quoi. Voilà, ça serait bien, ça serait... Il y a LVMH, il y a Orange, il y a des tas d'entreprises, Bouygues, il y a des tas de fondations qui seraient prêts peut-être à mettre de l'argent pour refaire cette
maison d'avant-garde.
Cette maison d'avant-garde, quoi. Parce que depuis 1956, les interrupteurs n'ont pas changé. Oui. Les ouvertures des fenêtres et des portes, c'est dans le jus. Et ça, c'est très rare, ça. On est dans l'art, dans la culture, et ça, c'est merveilleux, ça. C'est superbe.
Et vous avez une envie pour la suite, à terme, de qu'elle vive, qu'elle bouillonne comme c'était le cas avant?
Complètement. Et pour le public, hein, pour nos citoyennes, nos concitoyens. Avant, c'était une maison privée. Et là, on veut la faire ouvrir et la faire découvrir à nos bassins de vie, quoi, et au-delà, parce que c'est vraiment quelque chose qui va se visiter. Alors, pour y habiter, c'est un peu compliqué. On ne peut pas faire un hôtel, on peut pas. Il y a quand même des choses. Mais faire une résidence d'artiste, faire un musée, pourquoi pas? Tout est possible. Voilà. Et aujourd'hui, on cherche. On cherche à refaire le toit. Voilà. On en est là.
Hein, il faut déjà abriter,
étanchéiser la structure. Voilà. Après, on verra ce qu'on en fait. Mais on a plein de projets, par contre.
Merci, Monsieur Mosselin.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Mais bonsoir Fernand Gréco.
Bonsoir.
Vous êtes bien abordé ce soir pour différentes explications sur vos œuvres qui habitent littéralement ce bateau ivre, ce déploiement artistique de votre part. Comment ça s'est déroulé?
Eh bien, j'ai côtoyé Saint-Marcellin étant adolescent, parce que j'avais des amis. Moi, je viens de l'Est, mais j'avais des amis qui habitaient Saint-Marcellin. Et deux maisons à côté, on s'est souvent retrouvés en tant que cadeau. Et on ignorait toute cette maison. Et puis, quand j'ai appris récemment que la mairie avait pris l'option dessus, j'ai dit, mais je voudrais bien la visiter quand même. Et j'ai eu l'occasion de la visiter. J'ai trouvé le lieu fantastique. Et j'ai dit, je veux surtout exposer avant qu'on fasse des travaux, parce qu'il y a du vécu, c'est dans le jus, et voilà. Donc j'ai insisté pour faire une exposition et pour lancer un peu ce projet culturel.
Vos œuvres, notamment des présences qui habitent ce lieu, ça donne aussi une certaine valeur ajoutée à vos sculptures?
Oui, c'est ça qui me plaisait. Le jardin est magnifique, donc je fais beaucoup de sculptures assez grandes qui vont à l'extérieur, et je trouvais que c'était un véritable écrin de les mettre là, quoi. Bon.
Et des sculptures avec des matériaux dont vous travaillez régulièrement, qui vont donc du métal et puis à d'autres...
Alors il y a un peu tout, il y a du métal, il y a du bois, il y a de la pierre, de la stéatite, j'aime bien travailler tous les matériaux.
Avec aussi des notions d'entremêlement des matériaux.
Oui, tout à fait, oui.
On a l'impression presque des fois d'être dans un univers un peu de Calder ou des choses comme ça.
Un petit peu, oui, tout à fait. La grande sculpture noire dehors, il y a une inspiration Calder, oui, sûrement, oui.
Et des sculptures qui sont faites pour être en extérieur, hein, comme effectivement cette sculpture dehors. En intérieur, vous avez donc des visions un peu différentes quand vous les faites ou ça peut être...
D'abord, il y a des questions de taille qui interviennent, et puis de recul sur le... Pour pouvoir prendre du recul sur le... À l'extérieur, on peut mettre des grandes, on peut prendre beaucoup de recul. À l'intérieur, forcément, on est obligé de faire plus petit, sinon ça passe pas, quoi.
Ouais. Et des tableaux également, qui viennent compléter.
Oui, tout à fait. Ouais.
Vous avez une technique bien à vous pour les réaliser
ou... Alors, je suis un peu touche-à-tout. Hein. Ces derniers temps, j'ai essayé beaucoup les matériaux modernes. Je me suis dit, mais pourquoi... Au départ, les peintres faisaient de l'huile. Après, ils sont passés à l'acrylique. Et puis, après, il y a la photographie qui est arrivée. Je me suis dit, pourquoi pas utiliser les matériaux modernes? Alors, le matériau moderne, c'est le polycarbonate, c'est l'alu. Voilà, donc je fais des tableaux. Je retravaille à l'ordinateur. Et qu'ensuite, j'imprime soit sur polycarbonate, soit sur alu, sur différents matériaux, sur toile aussi. Voilà, c'est une période comme ça. Mais sinon, là, j'ai un petit retour à l'acrylique, là.
Il y a un certain nombre de pièces, vu le nombre, effectivement, de pièces qui est dans cette maison. Combien de pièces?
Moi, là, je crois que j'ai 43 ou 45 pièces, là.
D'accord. Dans pas mal de pièces aussi de la maison.
Mal de pièces de la maison.
Vous avez fait des choix sur tel ou tel...
Bien sûr. Là, j'ai mis une galerie de portraits, un petit peu.
Que ce soit parce que c'est intimiste ici.
Tout à fait. Donc ça, c'est mon univers. Renaud Lefebvre-Can, l'artiste avec qui j'expose, a ses pièces à lui aussi, avec son univers à lui. Et puis souvent, on met un peu des deux, parce qu'on trouve que ça se marie bien. Quoi.
Et dans les endroits plus passagers, des œuvres qui sont plus aérées.
Plus aérées. Plus accessible. Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Fernand Gréco.
Merci à vous.
Bonjour, Renaud Lefebvre-Can.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Vous êtes donc artiste, on pourrait dire peintre, puisque vous effectuez des tableaux, mais c'est pas exactement ça. Vous êtes
plasticien,
maître un peu de la résine.
Oui, c'est ça. Oui. Mais j'ai mis du temps pour trouver les résines et pour les travailler, parce que c'est compliqué à travailler. Il y a des temps de sèche, il y a des choses. Ouais.
Et pourquoi plus des résines que finalement de l'aquarelle, gouache ou d'autres?
J'ai fait de l'aquarelle, j'ai fait du fusain, il y en a quelques-uns, j'ai fait de la peinture, et puis on évolue, et puis je me suis retrouvé, je travaillais dans la chaussure avant, d'où l'idée de la couture, et après les usines de chaussures ont fermé sur Roman, donc je me suis reconverti dans le bâtiment, et c'est là que j'ai vu les résines. Qu'on se servait pour étancher les toits, les choses comme ça. Et c'est à partir de là que je suis parti sur la résine.
Et vous avez tout doucement un peu tiré le fil.
C'est ça, tout à fait.
Et d'année en année, vous avez fait évoluer le matériau en lui-même, ou plus les formes associées ou la dimension?
Surtout les formes. Les matériaux, on ne les touche pas trop. La résine, c'est la résine. Mais après, on peut la travailler avec des temps sèches différents, des choses comme ça. Voilà.
De nombreux motifs investissent les tableaux. Qu'est-ce qui peut vous inspirer? Vous avez en tête des cordes naturelles, ou simplement c'est de l'inspiration sur le moment?
C'est de l'inspiration sur le moment, ça. Hormis certains tableaux qui ont, par exemple, vous avez à l'entrée un grand rouge là-bas. Celui-là, c'est parce que j'ai eu un grave accident et j'en avais marre. Et celui-là, je l'ai... Mais sinon, les autres, non. C'est un travail... Je travaille sur croquis.
Eh bien, un certain nombre d'œuvres investissent le bateau ivre aujourd'hui.
Oui. Et puis c'est sympa, une maison comme ça. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est que justement, elle n'était pas en état. Et donc, nous, c'est ça. Voilà. On a fait plein d'expositions dans des chapelles désinfectées, des choses. Voilà.
Vous connaissiez ce bâtiment?
Non, je ne le connaissais pas, moi. Fernand le connaissait. Thank you.